La Belle et la Bête. Première partie. Dans un pays fort éloigné de celui-ci, l'on voit une grande ville où le commerce florissant entretient l'abondance. Elle a compté parmi ses citoyens un marchand heureux dans ses entreprises et sur qui la fortune, au gré de ses désirs, avait toujours répandu ses plus belles faveurs. Mais s'il avait des richesses immenses, il avait aussi beaucoup d'enfants. Sa famille était composée de 6 garçons et de 6 filles. Aucun n'était établi. Les garçons étaient assez jeunes pour ne point se presser. Les filles, trop fières des grands biens sur lesquels elles avaient lieu de compter, ne pouvaient aisément se déterminer pour le choix qu'elles avaient à faire. Leur vanité se trouvait flattée des assiduités de la plus brillante jeunesse. Mais un revers de fortune auquel elles ne s'attendaient pas vint troubler la douceur de leur vie. Le feu prit dans leur maison, les meubles magnifiques qui la remplissaient, les livres de compte, les billets, l'or, l'argent et toutes les marchandises précieuses qui composaient tout le bien du marchand furent enveloppées dans ce funeste embrasement qui fut si violent qu'on ne sauva que très peu de choses. Ce premier malheur ne fut que l'avant-coureur des autres. Le père à qui, jusqu'alors, tout avait prospéré, perdit en même temps, soit par des naufrages, soit par des corsaires, tous les vaisseaux qu'il avait sur la mer. Ses correspondants lui firent banqueroute. Ses commis dans les pays étrangers furent infidèles. Enfin, de la plus grande opulence, il tomba tout à coup dans une affreuse pauvreté. Il ne lui resta qu'une petite habitation champêtre, située dans un lieu désert, éloigné de plus de 100 lieues de la ville, dans laquelle il faisait son séjour ordinaire. Contraint de trouver un asile loin du tumulte et du bruit, ce fut là qu'il conduisit sa famille désespérée d'une telle révolution. Surtout les filles de ce malheureux père n'envisageaient qu'avec horreur la vie qu'elles allaient passer dans cette triste solitude. Pendant quelque temps, elles s'étaient flattées que, quand le dessein de leur père éclaterait, les amants qui les avaient recherchés se croiraient trop heureux de ce qu'elles voudraient bien se radoucir. Elles s'imaginaient qu'ils allaient tous, à l'envi, briguer l'honneur d'obtenir la préférence. Elles pensaient même qu'elles n'avaient qu'à vouloir pour trouver des époux. Elles ne restaient pas longtemps dans une erreur si douce. Elles avaient perdu le plus beau de leurs attraits. En voyant comme un éclair disparaître la fortune brillante de leur père, et la saison du choix était passée pour elles. Cette foule empressée d'adorateurs disparut au moment de leur disgrâce. La force de leur charme n'en put retenir aucun. Les amis ne furent pas plus généreux que les amants. Dès qu'elles furent dans la misère, tous sans exception cessèrent de les connaître. On poussa même la cruauté jusqu'à leur imputer le désastre qui venait de leur arriver. Ceux que le père avait le plus obligés furent les plus empressés à le calomnier. Ils débitèrent qu'il s'était attiré ses infortunes par sa mauvaise conduite, ses profusions et les folles dépenses qu'il avait faites et laissées faire à ses enfants. Ainsi, cette famille désolée ne put donc prendre d'autre parti que celui d'abandonner une ville où tous se faisaient un plaisir d'insulter à sa disgrâce. N'ayant aucune ressource, ils se confinèrent dans leur maison de campagne, située au milieu d'une forêt presque impraticable et qui pouvait bien être le plus triste séjour de la terre. Que de chagrin ils eurent à essuyer dans cette affreuse solitude. Il fallut se résoudre à travailler aux ouvrages les plus pénibles. Hors d'état d'avoir quelqu'un pour les servir, les fils de ce malheureux marchand partagèrent entre eux les soins et les travaux domestiques. Tous à l'envi s'occupèrent à ce que la campagne exige de ceux qui veulent en tirer leur subsistance. Les filles de leur côté ne manquèrent pas d'emploi. Comme des paysannes, elles se virent obligées de faire servir leurs mains délicates à toutes les fonctions de la vie champêtre. Ne portant que des habits de laine, n'ayant plus de quoi satisfaire leur vanité, ne pouvant vivre que de ce que la campagne peut fournir, bornées au simple nécessaire, mais ayant toujours du goût pour le raffinement et la délicatesse. Ces filles regrettaient sans cesse et la ville et ses charmes. Le souvenir même de leurs premières années, passées rapidement au milieu des ris et des jeux, faisait leur plus grand supplice. Cependant, la plus jeune d'entre elles montra, dans leur commun malheur, plus de constance et de résolution. On la vit par une fermeté bien au-dessus de son âge prendre généreusement son parti. Ce n'était pas qu'elle n'eût donné d'abord des marques d'une véritable tristesse. Et qui ne serait pas sensible à de pareils malheurs? Mais, après avoir déploré les infortunes de son père, pouvait-elle mieux faire que de reprendre sa première gaieté, d'embrasser par choix l'état seul dans lequel elle se trouvait, et d'oublier un monde dont elle avait, avec sa famille, éprouvé l'ingratitude et sur l'amitié duquel elle était bien persuadée qu'il ne fallait pas compter dans l'adversité? Attentive à consoler son père et ses frères, par la douceur de son caractère et l'enjouement de son esprit, que n'imaginait-elle point pour les amuser agréablement? Le marchand n'avait rien épargné pour son éducation et celle de ses sœurs. Dans ces temps fâcheux, elle en tira tout l'avantage qu'elle désirait. Jouant très bien de plusieurs instruments, qu'elle accompagnait de sa voix, c'était inviter ses sœurs à suivre son exemple. Mais son enjouement et sa patience ne firent encore que les attrister. Ses filles, que de si grandes disgrâces rendaient inconsolables, trouvaient dans la conduite de leur cadette une petitesse d'esprit, une bassesse d'âme, et même de la faiblesse à vivre gaiement dans l'état où le ciel venait de les réduire. « Qu'elle est heureuse !» disait l'aînée. « Elle est faite pour les occupations grossières. Avec des sentiments si bas, qu'aurait-elle pu faire dans le monde ?» Pareil discours était injuste. Cette jeune personne eût été bien plus propre à briller qu'aucune d'elles. Une beauté parfaite ornait sa jeunesse. Une égalité d'humeur la rendait adorable. Son cœur, aussi généreux que pitoyable, se faisait voir en tout. Aussi sensible que ses sœurs aux révolutions qui venaient d'accabler sa famille par une force d'esprit qui n'était pas ordinaire à son sexe, elle sut cacher sa douleur et se mettre au-dessus de l'adversité. Tant de constance passa pour insensibilité, mais on appelle aisément d'un jugement porté par la jalousie. Connue des personnes éclairées pour ce qu'elle était, chacun s'était empressé de lui donner la préférence. Au milieu de la plus haute splendeur, si son mérite la fit distinguer, sa beauté lui fit donner par excellence le nom de la « Belle ». Connue sous ce nom seul, en fallait-il davantage pour augmenter et la jalousie et la haine de ses sœurs? Ses appas et l'estime générale qu'elle s'était acquise eût dû lui faire espérer un établissement encore plus avantageux qu'à ses sœurs. Mais touchée seulement des malheurs de son père, loin de faire quelque effort pour retarder son départ d'une ville dans laquelle elle avait eu tant d'agréments, elle donna tous ses soins pour en hâter l'exécution. Cette fille fit voir dans la solitude la même tranquillité qu'elle avait eue au milieu du monde. Pour adoucir ses ennuis, dans ses heures de relâche, elle ornait sa tête de fleurs, et comme à ses bergères des premiers temps, la vie rustique, en lui faisant oublier ce qui l'avait le plus flatté au milieu de l'opulence, lui procurait tous les jours d'innocents plaisirs. Déjà 2 années s'étaient écoulées, et cette famille commençait à s'accoutumer à mener une vie champêtre, lorsqu'un espoir de retour vint troubler sa tranquillité. Le père reçut avis qu'un de ses vaisseaux, qu'il avait cru perdu, venait d'arriver à bon port richement chargé. On ajoutait qu'il était à craindre que ses facteurs, n'abusant de son absence, ne vendissent sa cargaison à vil prix, et que par cette fraude, ils profitassent de son bien. Il communiqua cette nouvelle à ses enfants, qui ne doutèrent pas un moment qu'elle ne les mit bientôt en état de quitter le lieu de leur exil. Surtout les filles, plus impatientes que leurs frères, croyant qu'il n'était pas nécessaire d'attendre rien de plus positif, voulaient partir à l'instant et tout abandonner. Mais le père, plus prudent, les pria de modérer leur transport. Quelque nécessaire qu'il fût à la famille, dans un temps surtout où l'on ne pouvait interrompre les travaux de la campagne sans un notable préjudice, il laissa le soin de la récolte à ses fils et prit le parti d'entreprendre seul un si long voyage. Toutes ses filles, excepté la cadette, ne faisaient plus de doute de se revoir bientôt dans leur première opulence. Elles s'imaginaient que, quand le bien de leur père ne deviendrait pas assez confortable pour qu'il les ramenât dans la grande ville, lieu de leur naissance, il en aurait du moins assez pour les faire vivre dans une autre ville moins florissante. Elles espéraient y trouver bonne compagnie, y faire des amants, profiter du premier établissement qu'on leur proposerait, ne pensant déjà presque plus aux peines que depuis 2 ans elles venaient d'essuyer, se croyant même déjà, comme par miracle, transportées d'une fortune médiocre dans le sein d'une agréable abondance. Elles osèrent, car la solitude ne leur avait pas fait perdre le goût du luxe et de la vanité, accabler leur père de folles commissions. Il était chargé de faire pour elle des emplettes en bijoux, en parures, en coiffures. À l'envi, l'une l'autre, c'était à qui demanderait davantage. Mais le produit de la prétendue fortune du père n'aurait pu suffire à les satisfaire. La belle, que l'ambition ne tyrannisait pas et qui n'agissait jamais que par prudence, jugea d'un coup d'œil que s'il remplissait les mémoires de ses sœurs, les siens seraient très inutiles. Mais le père, surpris de son silence, lui dit « Et toi, la belle ?» en interrompant ses filles insatiables. « N'as-tu point envie de quelque chose ?»« Que t'apporterai-je ? Que souhaites-tu ? Parle hardiment !»« Mon cher papa, » lui répondit cette aimable fille en l'embrassant tendrement, « je désire une chose plus précieuse que tous les ajustements que mes sœurs vous demandent. J'y borne mes vœux, trop heureuses s'ils sont remplis. C'est le bonheur de vous voir de retour en parfaite santé. » Cette réponse, si bien marquée au coin du désintéressement, couvrit les autres de honte et de confusion. Elles en furent si courroucées qu'une d'entre elles, répondant pour toutes, dit avec aigreur « Cette petite fille fait l'importante et s'imagine qu'elle se distinguera par cette affection héroïque. Assurément, rien n'est plus ridicule !» Mais le père, attendri de ses sentiments, ne put s'empêcher d'en marquer sa joie, touché même des vœux auxquels cette fille se bornait. Il voulut qu'elle demandât quelque chose, et pour adoucir ses autres filles indisposées contre elle, il lui remontra que pareille insensibilité sur la parure ne convenait pas à son âge, qu'il y avait un temps pour tout. « Eh bien, mon cher père, lui dit-elle, puisque vous me l'ordonnez, je vous supplie de m'apporter une rose. J'aime cette fleur avec passion. Depuis que je suis dans cette solitude, je n'ai pas eu la satisfaction d'en voir une seule. » C'était obéir et vouloir en même temps qu'il ne fît aucune dépense pour elle. Cependant, Le jour vint qu'il fallait que ce bon vieillard s'arrachât des bras de sa nombreuse famille. Le plus promptement qu'il put, il se rendit dans la grande ville, où l'apparence d'une nouvelle fortune le rappelait. Il n'y trouva pas les avantages qu'il pouvait espérer. Son vaisseau, véritablement, était arrivé, mais ses associés, qui le croyaient mort, s'en étaient emparés, et tous les effets avaient été dispersés. Ainsi, loin d'entrer dans la pleine et paisible possession de ce qui lui pouvait appartenir, pour soutenir ses droits, il lui fallut essayer toutes les chicanes imaginables. Il les surmonta, mais après plus de 6 mois de peine et de dépenses, il ne fut pas plus riche qu'auparavant. Ses débiteurs étaient devenus insolvables et à peine fut-il remboursé des frais. C'est où se termina cette richesse chimérique. Pour comble de désagréments, afin de ne pas hâter sa ruine, il fut obligé de partir dans la saison la plus incommode et le temps le plus effroyable. Exposé sur sa route à toutes les injures de l'air, il faillit de périr de fatigue. Mais quand il se vit à quelques lieues de sa maison, de laquelle il ne comptait pas sortir pour courir après de folles espérances que la belle avait eu raison de mépriser, les forces lui revinrent. Il lui fallait plusieurs heures pour traverser la forêt. Il était tard. Cependant, il voulut continuer sa route. Mais surpris par la nuit, pénétré du froid le plus piquant et enseveli pour ainsi dire sous la neige avec son cheval, ne sachant enfin où porter ses pas, il crut toucher à sa dernière heure. Nulle cabane sur sa route, quoique la forêt en fût remplie. Un arbre creusé par la pourriture fut tout ce qu'il trouva de meilleur, trop heureux encore d'avoir pu s'y cacher. Cet arbre, en le garantissant du froid, lui sauva la vie, et le cheval, peu loin de son maître, aperçut un antre creux où, conduit par l'instinct, il se mit à l'abri. La nuit en cet état lui parut d'une longueur extrême. De plus, persécuté par la faim, effrayé par les hurlements des bêtes sauvages qui passaient sans cesse à ses côtés, pouvait-il être un instant tranquille? Ses peines et ses inquiétudes ne finirent pas avec la nuit. Il n'eut que le plaisir de voir le jour, et son embarras fut grand. En voyant la terre extraordinairement couverte de neige, quel chemin pouvait-il prendre? Aucun sentier ne s'offrait à ses yeux. Ce ne fut qu'après une longue fatigue et des chutes fréquentes qu'il put trouver une espèce de route dans laquelle il marcha plus aisément. En avançant sans le savoir, le hasard conduisit ses pas dans l'avenue d'un très beau château que la neige avait paru respecter. Elle était composée de 4 rangs d'orangers d'une extrême hauteur, chargés de fleurs et de fruits. On y voyait des statues placées sans ordre ni symétrie. Les unes étaient dans les chemins, les autres entre les arbres, toutes d'une manière inconnue, de grandeur et de couleur humaine, en différentes attitudes et sous divers ajustements, dont le plus grand nombre présentait des guerriers. Arrivé jusque dans la première cour, il y vit encore une infinité d'autres statues. Le froid qu'il souffrait ne lui permit pas de les considérer. Un escalier d'agate à rampe d'or ciselé, d'abord, s'offrit à sa vue. Il traversa plusieurs chambres magnifiquement meublées. Une chaleur douce qu'il y respira le remit de ses fatigues. Il avait besoin de quelque nourriture. À qui s'adresser? Ce vaste et magnifique édifice ne paraissait être habité que par des statues. Un silence profond y régnait. Et cependant, il n'avait point l'air de quelque vieux palais qu'on eût abandonné. Les salles, les chambres, les galeries, tout était ouvert. Nul être vivant ne paraissait dans un si charmant lieu. Las de parcourir les appartements de cette vaste demeure, il s'arrêta dans un salon où l'on avait fait un grand feu. Présumant qu'il était préparé pour quelqu'un qui ne tarderait pas à paraître, il s'approcha de la cheminée pour se chauffer. Mais personne ne vint. Assis, en attendant sur un sofa placé près du feu, un doux sommeil lui ferma les paupières et le mit hors d'état d'observer si quelqu'un ne le viendrait point surprendre. La fatigue avait causé son repos, la faim l'interrompit. Depuis plus de 24 heures, il en était tourmenté. L'exercice même qu'il venait de faire depuis qu'il était dans ce palais augmentait encore ses besoins. À son réveil, il fut agréablement surpris de voir, en ouvrant les yeux, une table délicatement servie. Un léger repas ne pouvait le contenter, et les mets somptueusement apprêtés l'invitaient à manger de tout. Son premier soin fut de remercier hautement ceux desquels il tenait tant de bien, et il résolut encore d'attendre tranquillement qu'il plût à ses hôtes de se faire connaître. Comme la fatigue l'avait endormi avant le repas, la nourriture produisit le même effet et rendit son repos plus long et plus paisible, en sorte qu'il dormit cette seconde fois au moins 4 heures. À son réveil, au lieu de la première table, il en vit une autre de porphyre sur laquelle une main bienfaisante avait dressé une collation composée de gâteaux, de fruits secs et de vin de liqueur. C'était encore pour qu'il en fît usage. Ainsi, profitant des bontés qu'on lui témoignait, il usa de tout ce qui put flatter son appétit, son goût et sa délicatesse. Cependant, ne voyant personne à qui parler et qu'il introduisît si ce palais était la demeure ou d'un homme ou d'un dieu, la frayeur s'empara de ses sens, car il était naturellement peureux. Son parti fut de repasser dans tous les appartements. Il y comblait de bénédictions le génie auquel il était redevable de tant de bienfaits, et par des instances respectueuses, il le sollicitait de se montrer à lui. Tant d'empressements furent inutiles. Nulle apparence de domestique, nulle suite qui lui fît connaître que ce palais fut habité. Rêvant profondément à ce qu'il devait faire, il lui vint en pensée que, pour des raisons qu'il ne pouvait pénétrer, quelque intelligence lui faisait présent de cette demeure avec toutes les richesses dont elle était remplie. Cette pensée lui parut être une inspiration, et sans tarder, faisant de nouveau la revue, il prit possession de tous ses trésors. Bien plus, en lui-même, il régla la part qu'il destinait à chacun de ses enfants et marqua les logements qui pouvaient séparément leur convenir, en se félicitant de la joie que leur causerait un pareil voyage. Il descendit dans le jardin, où malgré la rigueur de l'hiver, il vit comme au milieu du printemps les fleurs les plus rares exhalaient une odeur charmante. On y respirait un air doux et tempéré. Des oiseaux de toute espèce, mêlant leur ramage au bruit confus des eaux, formaient une aimable harmonie. Le vieillard, extasié de tant de merveilles, disait en lui-même « Mes filles n'auront pas, je pense, de peine à s'accoutumer dans ce délicieux séjour. Je ne puis croire qu'elles regrettent ou qu'elles désirent la ville préférablement à cette demeure. Allons » s'écria-t-il, avec un transport de joie peu commun. « Partons à l'instant. Je me fais d'avance une félicité de voir la leur. N'en retardons pas la jouissance. » En entrant dans ce château si riant, il avait eu soin, malgré le grand froid dont il était pénétré, de débrider son cheval et de le faire aller vers une écurie qu'il avait remarquée dans la première cour. Une allée garnie de palissades formée par des berceaux de rosiers fleuris y conduisait. Jamais il n'avait vu de si belles roses. Leur odeur lui rappela le souvenir d'en avoir promis une à Belle. Il en cueillit une. Il allait continuer de faire 6 bouquets, mais un bruit terrible lui fit tourner la tête. Sa frayeur fut grande quand il aperçut à ses côtés une horrible bête qui, d'un air furieux, lui mit sur le col une espèce de trompe semblable à celle d'un éléphant et lui dit d'une voix effroyable « Qui t'a donné la liberté de cueillir mes roses? N'est-ce pas assez que je t'eusse souffert dans mon palais avec tant de bonté? Loin d'en avoir de la reconnaissance, téméraire, je te vois voler mes fleurs. Ton insolence ne restera pas impunie. » Le bonhomme, déjà trop épouvanté de la présence inopinée de ce monstre, pensa mourir de frayeur à ce discours, et jetant promptement cette rose fatale. « Ah, mon seigneur ! » s'écria-t-il, prosterné par terre. « Ayez pitié de moi !
je ne manque point de reconnaissance. Pénétré de vos bontés, je ne me suis pas imaginé que si peu de choses fût capable de vous offenser. »
Le monstre, tout en colère, lui répondit.
« Tais-toi, maudit harangueur. Je n'ai que faire de tes flatteries ni des titres que tu me donnes. Je ne suis pas mon seigneur. Je suis la bête, et tu n'éviteras pas la mort que tu mérites. »
Le marchand, consterné par une si cruelle sentence, croyant que le parti de la soumission était le seul qui le pût garantir de la mort, lui dit d'un air véritablement touché que la rose qu'il avait osé prendre était pour une de ses filles appelée la belle. Ensuite, soit qu'il espérât de retarder sa perte ou de toucher son ennemi de compassion, il lui fit le récit de ses malheurs. Il lui raconta le sujet de son voyage et n'oublia pas le petit présent qu'il s'était engagé de faire à la belle, ajoutant que la chose à laquelle elle s'était restreinte, pendant que les richesses d'un royaume n'auraient à peine que suffi pour remplir les désirs de ses autres filles, venait à l'occasion qui s'en était présentée de lui faire naître l'envie de la contenter, et qu'il avait cru le pouvoir faire sans conséquence, que d'ailleurs il lui demandait pardon de cette faute involontaire. La bête rêva un moment, reprenant ensuite la parole d'un ton moins furieux, elle lui tint ce langage.
« Je veux bien te pardonner, mais ce n'est qu'à condition que tu me donneras une de tes filles. Il me faut quelqu'un pour réparer cette faute. »
« Juste ciel, que me demandez-vous ? » reprit le marchand. « Comment tenir ma parole ? Quand je serai assez inhumain pour vouloir racheter ma vie aux dépens de celle d'un de mes enfants, de quel prétexte me servirai-je pour le faire venir ici ?»«
Il ne faut point de prétexte, » interrompit la bête. « Je veux que celle de tes filles que tu conduiras vienne ici volontairement, ou je n'en veux point. Vois si entre elles, il en est une assez courageuse et qui t'aime assez pour vouloir s'exposer afin de te sauver la vie. Tu portes l'air d'un honnête homme. Donne-moi ta parole de revenir dans un mois, si tu peux en déterminer une à te suivre. Elle restera dans ces lieux et tu t'en retourneras. « Si tu ne le peux, promets-moi de revenir seul après leur avoir dit adieu pour toujours, car tu seras à moi. »«
Ne crois pas, » poursuivit le monstre en faisant craquer ses dents, « accepter ma proposition pour te sauver. »« Je t'avertis que si tu pensais de cette façon, j'irai te chercher et je te détruirai avec ta race quand 100 000 hommes se présenteraient pour te défendre. »
Le bonhomme, quoique très persuadé qu'il tenterait inutilement l'amitié de ses filles, accepta cependant la proposition du monstre. Il lui promit de revenir au temps marqué, se livrer à sa triste destinée, sans qu'il fût nécessaire de le venir chercher. Après cette assurance, il crut être le maître de se retirer et de pouvoir prendre congé de la bête, dont la présence ne pouvait que l'affliger. La grâce qu'il en avait obtenue était légère, mais il craignait encore qu'elle ne la révoquât. Il lui fit connaître l'envie qu'il avait de partir. La bête lui répondit qu'il ne partirait que le lendemain.
« Tu trouveras, lui dit-elle, un cheval prêt dès qu'il fera jour. En peu de temps, il te mènera. Adieu, va souper et attendre mes ordres. »
Ce pauvre homme, plus mort que vif, reprit le chemin du salon dans lequel il avait fait si bonne chère. Vis-à-vis d'un grand feu, son souper, déjà servi, l'invitait à se mettre à table. La délicatesse et la somptuosité d'aimer n'avaient plus rien qui le flattasse. Accablé de son malheur, s'il n'eût pas craint que la bête cachée en quelque endroit ne l'eût observé, s'il eût été sûr de ne pas exciter sa colère par le mépris qu'il eût fait de ses biens, il ne se serait pas mis à table. Pour éviter un nouveau désastre, il fit un moment trêve avec sa douleur, et autant que son cœur affligé le lui put permettre, il goûta suffisamment de tous les mets. À la fin du repas, un grand bruit dans l'appartement voisin se fit entendre. Il ne douta point que ce ne fût pas son formidable hôte. Comme il n'était pas le maître d'éviter sa présence, il essaya de se remettre de la frayeur que ce bruit subit venait de lui causer. À l'instant, La bête qui parut lui demanda brusquement s'il avait bien soupé. Le bonhomme lui répondit d'un ton modeste et craintif qu'il avait, grâce à ses intentions, beaucoup mangé.
« Promets-moi, reprit le monstre, de te souvenir de la parole que tu viens de me donner et de la tenir en homme d'honneur en amenant une de tes filles. »
Le vieillard, que cette conversation n'amusait pas, lui jura d'exécuter ce qu'il avait promis et d'être de retour dans un mois, seul ou avec une de ses filles, s'il s'en trouvait qu'il l'aimât assez pour le suivre aux conditions qu'il lui devait proposer.
« Je t'avertis de nouveau, dit la bête, de prendre garde à ne la pas surprendre sur le sacrifice que tu dois exiger d'elle et sur le danger qu'elle encourra. Peins-lui ma figure telle qu'elle est, qu'elle sache ce qu'elle va faire, surtout qu'elle soit ferme dans ses résolutions. Il ne sera plus temps de lui faire des réflexions quand tu l'auras amenée ici. Il ne faut pas qu'elle se dédise. Tu seras également perdu sans qu'elle eût la liberté de s'en retourner. »
Le marchand, qu'un pareil discours assommait, lui réitéra la promesse de se conformer en tout à ce qu'elle venait de lui prescrire. Le monstre, content de sa réponse, lui commanda de se coucher et de ne se pas lever qu'il ne vit le soleil et qu'il n'eût entendu une sonnette d'or.
« Tu déjeuneras avant de partir, lui dit-il encore, et tu peux emporter une rose pour la belle. Le cheval qui te doit porter sera prêt dans la cour. Je compte te revoir dans un mois, pour peu que tu sois homme honnête. Adieu. Si tu manques de probité, je t'irai rendre visite. »
Le bonhomme, de peur de prolonger une conversation déjà trop ennuyeuse pour lui, fit une profonde révérence à la bête, qu'il avertit encore de ne se point inquiéter du chemin pour son retour. Qu'au temps marqué, le même cheval qu'il monterait demain matin se trouverait à sa porte et suffirait pour sa fille et pour lui. Quelque peu d'envie que le vieillard eut de dormir, il n'osa passer les ordres qu'il avait reçus. Obligé de se coucher, il ne se leva que quand le soleil commença de luire dans sa chambre. Son déjeuner fut prompt. Ensuite, il descendit dans le jardin, cueillit la rose que la bête avait ordonné qu'il emportât, que cette fleur lui fit répandre de larmes. Mais par la crainte de s'attirer de nouveaux malheurs, il se contraignit et fut sans retardement chercher le cheval qui lui avait été promis. Il trouva sur la selle un manteau chaud et léger. Il y fut bien plus commodément que sur le sien. Dès que le cheval le sentit assis, il partit avec une vitesse incroyable. Le marchand, qui dans un instant perdit de vue ce fatal palais, ressentit autant de joie qu'il avait eu la veille de plaisir à l'apercevoir, avec cette différence que la douceur de s'en éloigner était empoisonnée de la cruelle nécessité d'y retourner.
« À quoi me suis-je engagé ? »
dit-il, pendant que son coursier le portait avec une promptitude et une légèreté qui n'étaient connues que dans le pays des contes.
« Ne valait-il pas mieux que je devinsse tout d'un coup la victime de ce monstre altéré du sang de ma famille ? Par une promesse que j'ai faite, aussi dénaturée qu'indiscrète, il m'a prolongé la vie. Est-il possible que j'aie pu penser à sauver mes jours aux dépens de ceux d'une de mes filles ? Aurais-je la barbarie de l'emmener pour l'avoir sans doute dévoré à mes yeux ? » Mais tout d'un coup, s'interrompant lui-même, « Eh, malheureux ! S'écria-t-il, est-ce ce que je dois le plus craindre ? Quand je pourrais dans mon cœur faire taire la voix du sang, dépendrait-il de moi de commettre cette lâcheté ? Il faut qu'elle sache son sort et qu'elle y consente. Je ne vois nulle apparence qu'elle veuille se sacrifier pour un père inhumain. Et je ne dois pas lui faire pareille proposition. Elle est injuste. Mais je veux que cette affection qu'elles ont toutes pour moi en engagea une à se dévouer. La seule vue de la bête ne détruirait-elle pas sa constance ? Et je ne pourrais m'en plaindre. Ah ! Trop impérieuse bête !
Dit-il avec exclamation.
Tu l'as fait exprès, en mettant une condition impossible aux moyens que tu m'offres pour éviter ta fureur et obtenir le pardon d'une faute aussi légère. C'est ajouter l'insulte à la peine. Mais, continua-t-il. C'est trop y penser, je ne balance plus, et j'aime mieux m'exposer sans détour à ta rage que de tenter un secours inutile et dont l'amour paternel est épouvanté. Reprenons, continua-t-il, le chemin de ce funeste palais, et dédaignons d'acheter si cher les restes d'une vie qui ne pourrait être que misérable avant le mois qui nous est accordé. Retournons terminer dès aujourd'hui nos malheureux jours.
À ces mots, il voulut revenir sur ses pas, mais il lui fut impossible de faire retourner bride à son cheval. Se laissant malgré lui conduire, du moins, il prit le parti de ne rien proposer à ses filles. Déjà de loin, il voyait sa maison. Et se fortifiant de plus en plus dans sa résolution, « Je ne leur parlerai point, disait-il, du danger qui me menace. J'aurai le plaisir de les embrasser encore une fois. Je leur donnerai mes derniers conseils. Je les prierai de bien vivre avec leurs frères, à qui je recommanderai de ne les pas abandonner. »